Mal dormi? Réconciliez-vous enfin avec votre literie. Grâce au confort Tempur, votre matelas s'adapte à votre corps pour un sommeil de rêve. Pour son anniversaire, Tempur vous offre du confort en plus. Profitez-en. Jusqu'au 25 mai, agrandissez votre literie à prix unique. Voir conditions et liste des revendeurs participants sur tempur.com.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est aujourd'hui que s'ouvre la Foire de Paris, l'un des plus grands rassemblements d'objets du monde. L'occasion pour Franck Ferrand de se pencher sur l'histoire des objets. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous êtes comme moi Julia, mais quand je découvre dans une salle de vente, chez un brocanteur, ou sur les trottoirs d'un vide-grenier, un objet de forme étrange ou dont je ne connais pas l'usage, j'ai toujours envie de savoir à quoi il servait. Eh bien, ces objets étranges, ce sont eux qui vont aiguiser notre curiosité pendant cette émission.
Et vous avez invité de grands connaisseurs des objets.
En effet, Gérard Boutet est l'auteur d'un dictionnaire des savoir-faire et des savoir-vivre intitulé « La France en héritage ». Quant à Philippe Ancelin, que connaissent bien les téléspectateurs de France 3, il est commissaire-priseur et directeur des services des estimations de l'hôtel Drouot. Pour ces deux passionnés, il ne fait pas de doute que les objets inanimés ont bel et bien une âme.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? Pour avoir beaucoup traîné mes guêtres dans les greniers et les vides-greniers, les entrepôts, les dépôts meubles, les bric-à-brac et brocantes diverses, les marchés aux puces et les arrières-boutiques, pour avoir des centaines de fois extrait d'un capharnaüm un objet de forme étrange et m'être demandé, après l'avoir tourné et retourné dans tous les sens, après avoir scruté les traces d'usure en divers endroits de cette énigme de pierre, de fer, de bois ou de verre, après m'être demandé à quoi il avait bien pu servir jadis, je crois pouvoir répondre oui à la célèbre question de Lamartine. Objets inanimés, avez-vous donc une âme? Ô combien! La multitude, l'infinité d'objets présentés cette année encore à la Foire de Paris relèvent de la catégorie des objets neufs. Ceux-là n'ont pas encore pu s'imprégner, se gorger de l'esprit et des émotions de leurs utilisateurs. Leur âme est encore mince et nulle leur force d'aimer. On ne peut pas en dire autant, je crois, des objets qui surgissent du passé et auxquels j'aimerais rendre à présent en justice. Ça faisait longtemps, vous savez, que j'avais envie de consacrer une émission aux outils, aux instruments obsolètes, genre tire-bottes, pinces à marquer, boules à filet, embauchoir, fer à gants, fer à friser ou à onduler, ou à repasser les ruchers, mouchettes, lames à émécher, laminoirs, fuseaux divers, navettes de tisseurs, cure-pieds de maréchal, étuvoirs, cannes à souffler, alènes et tranchets, varlopes, guillaumes et bouvets, sabots de chaise, tire-braise, jauge à filet, filetage, inhalateur, boîte à collerette, gabarits divers, moulin à poivre ou à cannelle, que sais-je encore. Certains objets présentent un intérêt, ne serait-ce qu'esthétique. Adolescent, je m'étais mis à accumuler une série de petits flacons bleu cobalt à bouchons argentés, récoltés à prix modique dans divers déballages et que je trouvais jolis. Jusqu'à ce qu'un marchand ne m'affranchisse en me signalant goguenard que j'étais en train de monter tout innocemment une collection d'anciens crachoirs. Dans l'instant, ils ont perdu à mes yeux tout attrait. C'était pour mieux m'intéresser à d'autres incongruités, notamment les ex-libris de bibliophiles, les billets de pneumatique, les menus de paquebots, les nécessaires miniatures, les pendules de voyage, les toques-œufs, les cordons de sonnette, les liseuses à pince, les pare-feux à tablette. Arrêtez-moi. Il y aurait beaucoup à dire, me semble-t-il, d'une civilisation qui n'a cessé depuis l'Antiquité de multiplier, de préciser et raffiner jusqu'à l'excès toutes sortes d'ustensiles destinés à maîtriser la matière, à la plier à ses volontés, à lui faire prendre toutes les formes, tous les aspects, tous les usages possibles et inutiles. Du reste, notre Occident, pendant très longtemps, a jugé de l'intérêt des autres civilisations par le degré de développement et de ramification de ces artefacts. Je ne peux pas m'empêcher de citer ici les vers fameux de Pierre Corneille dans l'Illusion. Oui, mais les feux qu'il jette en sortant de prison auraient en un moment embrasé la maison, dévoré tout à l'heure ardoises et gouttières, fêtes, lattes, chevrons, montants, courbes, filières, entretoises, sommiers, colonnes, soliveaux, parnes, sols, appuis, jambages, travetaux, portes, grilles, verrous, serrures, tuiles, pierres, plomb, fer, plâtre, ciment, peinture, marbre, verre, cave, puits, cour, perron, salle, chambre, grenier, office, cabinet, terrasses, escaliers, griserie de l'énumération, ivresse de l'accumulation de choses qui devait culminer au XXe siècle dans un célèbre roman de Georges Perec, Les choses, où ce ne sont pas les personnages mais les objets qui se taillent la part du protagoniste. L'auteur y décrit à satiété la fascination de notre époque pour certains stéréotypes matériels. L'œil d'abord, écrit Perec, glisserait sur la moquette grise d'un long corridor haut et étroit. Les murs seraient des placards de bois clair dont les ferrures de cuivre luiraient. Trois gravures, représentant l'une Thunderbird, vainqueur à Epsom, l'autre un navire à aubes, ville de Montreux, la troisième une locomotive de Stephenson, mèneraient à une tenture de cuir retenue par de gros anneaux de bois noir veiné et qu'un simple geste suffirait à faire glisser. La moquette alors laisserait place à un parquet presque jaune que trois tapis aux couleurs éteintes recouvriraient partiellement. Un univers d'objets tout juste accessible et qui forcément représente un piège, nous dit Perec. Où étaient les dangers? Où étaient les menaces? Des millions d'hommes jadis se sont battus et même se battent encore pour du pain. Jérôme et Sylvie ne croyaient guère que l'on pût se battre pour des divans Chesterfield, mais c'eût été pourtant le mot d'ordre qui les aurait le plus facilement mobilisés. Rien ne les concernait, leur semblait-il, dans les programmes, dans les plans. Ils se moquaient des retraites avancées, des vacances allongées, des repas de midi gratuits, des semaines de 30 heures. Ils voulaient la surabondance. Ils rêvaient de platines clément, de plages désertes pour eux seuls, de tours du monde et de palaces. L'ennemi était invisible, ou plutôt il était en eux. Il les avait pourris, gangrenés, ravagés. Ils étaient les dindons de la farce, de petits êtres dociles, les fidèles reflets du monde qui les narguait. Ils étaient enfoncés jusqu'au cou dans un gâteau dont ils n'auraient jamais que les miettes. Le dernier mot, la dernière chose, reviennent à Mallarmé. Sur les crédences au salon vide, nul ptix, aboli bibelot d'inanité sonore, car le maître est allé puiser des pleurs au styx avec ce seul objet dont le néant sonore.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
À la brocante, à la brocante, on trouve toujours des choses charmantes. À la brocante, des vieux phonos, des vieux pianos.
Et pour une émission consacrée à la foire aux objets d'autrefois, il nous fallait, Franck, absolument diffuser À la brocante de Charles Trenet.
Oui, Julia, alors vous savez que vendredi prochain, nous consacrerons l'émission à Charles Trenet, dont ce sera très bientôt le centenaire en fait. Charles Trenet aurait 100 ans s'il était encore parmi nous. On peut dire qu'il est encore parmi nous et vous allez voir que vendredi, on aura énormément de choses à vous faire entendre, parfois étonnantes. Bonjour à tous les deux, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous, quand on parle de brocante, vous êtes chez vous, évidemment. On peut dire, Gérard Boutet, que vous êtes l'historien des objets, vous aimez les raconter. Quant à vous, Philippe Ancelin, on vous connaît comme l'homme qui est capable de les estimer, de leur donner à chacun un prix. Il vous arrive, j'imagine, d'être souvent dans les brocantes ?
Oui, ça m'arrive effectivement parce que c'est un plaisir. Et puis, j'aime bien découvrir les objets. Les objets peuvent devenir des objets mystères par rapport effectivement à ce que l'on peut avoir comme souvenir, le temps qui passe. Vous avez vraiment des objets qui sont les témoins d'une modernité obsolète, du passé et... Il s'impose à vous. On ne sait pas pourquoi. Peut-être parce que leur réalisation technique est vraiment un peu exceptionnelle, sort de l'ordinaire, ou parce que, par leur anecdote, ils font ressurgir tout un pan de l'histoire.
Oui, et cette histoire, en fait, on aime aussi l'imaginer. On ne sait pas toujours exactement à quoi correspondent les objets qu'on a entre les mains, mais on imagine assez volontiers ce qu'ils ont pu vivre.
C'est là le jeu.
Eh oui.
Le jeu, c'est d'identifier l'objet dans ce qu'il est, dans son usage. Moi, je suis arrivé à la brocante par hasard et par accident. Lorsque j'avais décidé en l'an 2000 d'écrire le dictionnaire La France en héritage et que je voulais l'illustrer, j'avais demandé au musée de m'autoriser à prendre en photo quelques pièces de leur collection. Et très vite, j'ai compris que c'était impossible. Il fallait des autorisations, du courrier, des fonds que je n'avais pas, dure situation de l'écrivain solitaire. Et donc, je me suis dit, mais il y a les foires à la brocante qui proposent le plus grand musée d'histoire populaire à travers l'objet. Et c'est à partir de là que j'ai couru les foires à la brocante avec mon appareil photo. Ce n'était pas le numérique à l'époque, c'était pas assez fin. Et j'avais mis au point un système de prise de vue qui était une prise de vue sauvage, mais je n'ai jamais volé une image. Jamais. J'ai toujours demandé aux brocanteurs, m'autorisez-vous à prendre ceci. Et alors, les brocanteurs étaient très sensibles à cela.
C'est un vrai métier au-delà d'une passion, brocanteur. Il faut bien en être conscient parce qu'en fait, on a tendance évidemment à les confondre avec tous les types de marchands qui existent. Depuis quelques années, on a vu fleurir les foires à la brocante, les rendez-vous, les salons dans tout, partout, dans toutes les villes de France, dans quasiment toutes les communes. On a aussi des vide-greniers, on a toutes sortes de déballages, on va dire. La brocante, c'est pas ça. C'est quelque chose de très spécifique, ça n'est pas non plus l'antiquité. On a parlé des antiquaires, on a fait une émission il y a quelques temps avec Jean Bedel. Mais le brocanteur, c'est celui qui récupère des stocks d'objets, qui arrive à les identifier, qui les présente et qui les met en vente sans forcément les restaurer, contrairement à l'antiquaire qui se doit présenter le marchandise en bon état.
Tout à fait, oui. Et c'est vrai qu'il faut bien différencier, comme vous dites très justement, le déballage et la brocante, même si dans tout déballage, il y a quelque chose à apprendre, parce que actuellement, avec l'accélération du temps, on s'aperçoit que des objets des années 50, des objets des années 60 ou 80, parfois, on a déjà perdu leur pourquoi,
on ne sait
si
même
on
plus,
peut
oui,
dire,
on ne sait même
et
plus à quoi ils servaient.
Ils deviennent des objets mystères, comme je le disais tout à l'heure, qu'il faut redécouvrir.
C'est étrange, cette passion des Français, Gérard Boutet, pour l'objet, pour la collection. Et c'est une passion qui a l'air d'être en pleine expansion en ce moment.
Qui a débuté il y a déjà quelque temps.
Oui, oui, oui.
Moi, je situe le début, Philippe, je pense que vous êtes d'accord, le début, c'est il y a une vingtaine d'années.
Oui, mm-hmm. C'est vrai.
C'est cela.
Ouais.
Mais
tout
il
début
faut...
des années 90, on
oui,
va dire. Hein.
Mais il faut noter une chose, c'est que les foires à la brocante ont évolué, ont changé en 20 ans. Il y a 20 ans, lorsque j'ai commencé à courir ces lieux, là, d'exposition et de vente, c'était un marché aux choses anciennes, rares et insolites, quelquefois, généralement. Maintenant, ça a changé. Les temps ne sont plus les mêmes et beaucoup de foires à la brocante sont devenues des marchés d'occasion des objets actuels que l'on recycle. Mm-hmm. Donc,
et puis il y a aussi, il faut se méfier de tous ces objets fabriqués dans certains pays asiatiques notamment et qui sont de faux objets anciens. Et malheureusement, on les voit peu à peu gagner du terrain. Quand on se promène dans les petits salons, vous savez, les salons de quartier ou d'arrondissement à Paris ou dans certaines communes de France, on voit fleurir ces objets, les faux fer à cheval, etc. C'est quand même dommage parce qu'ils viennent polluer en quelque sorte le marché.
Il faut jouer.
Mais voilà.
Mais là, je vais peut-être faire un peu de second degré. Parfois, il y a des merveilles d'imitation et il y a des fabrications tout à fait exceptionnelles.
Oui, après, c'est l'art de la contrefaçon. C'est encore
c'est un autre problème, effectivement.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Qui a perdu une carte postale de l'île de Ré, un gant blanc pour une main petite. Une clé, un faux-nez.
La voix et l'émotion de Serge Reggiani, Franck sur Europe 1, avec les objets perdus.
Alors Philippe Ancelin, on peut dire qu'il existe une véritable hiérarchie des objets. Il ne faut pas croire que tous les objets se vaillent, loin de là. Vous avez bien sûr les objets d'art tout à fait au sommet. Alors il y a même de très grands objets d'art. On parlera tout à l'heure d'un grand objet pour vous donner une idée de ce que ça peut être. Et puis ensuite, on descend, si je puis dire, jusqu'à l'espèce de cocoche ou de rogaton dont on ne sait pas trop quel a été autrefois l'usage et qui est amusant ou joli à voir et qui n'a quasiment pas de valeur. Comment est-ce que vous estimez un objet ?
Comment on l'estime ? On l'estime déjà en prenant le temps de le regarder, de voir comment il est constitué. Nous faisons appel à notre mémoire, à notre expérience.
Et à notre sens du marché, il faut connaître.
Voilà, le sens du marché,
grande habitude, en fait.
Et puis le goût de la mode aussi, mm-hmm. Parce que voilà. La mode est génératrice de hausses, de baisses. Et en fonction de ça, nous essayons de donner aux clients l'estimation qu'ils pourraient en attendre dans le cadre d'une vente aux enchères publiques. Mais c'est vrai que vous avez des objets qui n'ont aucune valeur, mais qui sont extrêmement émouvants. Moi, je me souviens, si je peux te dire cette petite anecdote très rapidement, d'avoir reçu dans mes bureaux un vieux monsieur qui me déballe avec, dans un mouchoir blanc, avec beaucoup de précautions. Je me dis, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la huitième merveille du monde. Et en fait, non, c'était pas la huitième merveille du monde, mais j'en ai un peu encore la chair de poule là quand j'en parle. C'était juste le paquet de tabac que l'on donnait aux poilus de la guerre de 14 et qui était resté dans son emballage d'origine. Et ça, c'est rien. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme prix?
Ça a une immense valeur et en même temps, ça n'a pas de valeur marchande. Oui.
Moi, j'ai eu quand même, mieux que beaucoup de pages de livres, beaucoup de films, j'ai eu là toute la vision de la guerre. Et je trouvais que c'était vraiment un objet très fort.
C'est toute la mémoire qui s'attache à certains objets. Voilà. C'est ce qui explique que dans certaines ventes publiques, des objets relativement ordinaires, si je puis dire, atteignent parfois des sommets parce qu'ils ont appartenu à une personnalité célèbre, ou à plusieurs d'ailleurs.
Tout à fait.
C'est toujours fascinant. Alors vous parliez de mode, Philippe Ancelin. Est-ce qu'on peut dire, Gérard Boutet, qu'il y a des modes de collection, par exemple?
Oui, il y a des modes de collection et c'est lié aux générations. Chaque génération a ses nostalgies. Et les nostalgies, des nostalgies, naissent les modes. Un exemple, il y a une dizaine d'années, ce qui était à la mode sur les brocantes étaient ces petites boîtes cubiques des bouillons cubes. Voilà. Maintenant, ça ne vaut plus rien. Pourquoi? Eh bien, parce que la nostalgie est passée. Cette génération qui avait cela dans la mémoire, c'est passé.
C'est plus la même. Oui.
Ce qui est sensible également, on le voit bien, ce sont les livres illustrés, ce qu'on appelait les illustrés. Il y a eu la période Cocardi, avant la période L'Épatant, c'est les gens qui étaient nés en 1920, et maintenant, ce qui commence à avoir la cote, c'est ce que ces petites parutions de poche italiennes qu'on appelait les Fumetti, les Kit Carson et tout, qui, il y a 5 ans, ne valaient pas tripette. Ah oui. Et maintenant, ça se met à gonfler. Et voilà, ça c'est le phénomène des modes qui est lié à la nostalgie.
Alors, il y a des types de collections. Je me rappelle, à une époque, il y avait une folie pour les vases galets et pour toutes les pattes de verre. Hein. On a eu la folie des INRO aussi. Il faut peut-être expliquer, Philippe Ancelin, ce que c'est qu'un INRO.
Alors, les INRO, ce sont ces petites boîtes extrême-orientales, japonaises, avec donc des décors très raffinés en laque multicolore et qui permettaient donc de mettre différents objets et qui se terminaient par une petite cordelière avec un bouton appelé Netsuke en ivoire. Et c'est vrai qu'il y a eu toute une folie, comme la folie des tabatières chinoises, comme toutes sortes d'objets.
Les barbotines.
Les barbotines,
enfin,
oui.
Bon, etc.
Nous croulions sous les barbotines.
Et les ouchéptis aussi, c'est-à-dire les petits personnages.
Les petites figurines
égyptiens.
Mortuaires égyptiennes.
Ce qui a tué cette passion des ouchéptis, c'est qu'on en a fabriqué un peu partout et qu'on ne sait plus distinguer les vrais des faux. Enfin, difficilement.
C'est un peu ça, mais quand même, les vrais conservent pour les amateurs une cote importante.
Oui, évidemment. Alors. C'est l'usage aussi des objets qui est fascinant, des objets et des meubles pour commencer. Je pense aux chaises, par exemple. On dit, ah, j'ai acheté une chaise, mais de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'une chauffeuse? Est-ce qu'il s'agit d'une ponteuse? Est-ce qu'il s'agit d'une bergère? Est-ce qu'il s'agit... À chaque usage, sa forme, et à chaque forme, sa valeur.
Exactement. Et à chaque forme aussi, chaque production, chaque siècle, son estampille et sa valeur, bien évidemment.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression, Gérard Boutet, que peu à peu, la connaissance des usages, des formes, des noms des objets a tendance à se diluer et que les gens connaissent de moins en moins bien les choses?
Hélas, c'est ça. Ce n'est pas uniquement dans ce domaine-là. C'est sûr qu'il y a un appauvrissement dans notre vocabulaire et dans nos connaissances. Ça, c'est bien dommage. Mais comment y remédier? Peut-être que la découverte des objets anciens est une solution. Pourquoi pas? Tout du moins, c'est un éveil à une certaine sensibilité de l'objet, de l'outil, du meuble, des ustensiles de cuisine.
Mais il y a une pratique et on ne peut que conseiller aux grands-parents d'emmener leurs petits-enfants dans les vides-greniers et de leur apprendre.
Et d'expliquer.
Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une chaise? D'ailleurs, disons-le, qu'est-ce que c'est qu'une chaise ponteuse, puisque je l'ai signalé?
C'est une chaise où l'on permettait de s'asseoir et de s'accouder et de regarder les différents joueurs à une table de jeu.
Elle a donc un accoudoir sur le dossier.
Voilà, exactement.
Europe 1. Le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit de Franck qui nous fait maintenant revivre sur Europe 1 la nuit de Varennes.
C'est la nuit la plus courte de l'année et une lueur pointe à l'horizon quand ce 21 juin 1791, à 3 heures passées, la grosse berline vert et jaune des souverains en fuite fait irruption dans la cour du relais de Bondy. Vous avez bien compris que nous sommes la fameuse nuit de Varennes. Vous savez, le départ précipité de la famille royale des Tuileries, le roi, la reine, Madame Élisabeth, enfin l'entourage et puis également les enfants, Madame Royale et le petit dauphin se sont déguisés. Ils sont en train de s'échapper. De s'en aller le plus loin possible de Paris. Le convoi est parti depuis près d'une heure à la barrière Saint-Martin. Il a donc déjà pris du retard sur l'horaire et vous allez voir que pendant tout le trajet, évidemment, il va prendre de plus en plus de retard. On connaît cette situation. Afin de préserver leur incognito, les fugitifs se font passer donc pour Madame de Corf et ses domestiques et sa suite. Ils sont en route pour un voyage d'agrément vers l'Est, c'est en tout cas ce qu'ils disent. Alors, au relais de Bondy, on change les chevaux. Le cocher de service, qui n'est autre que le célèbre comte de Fersennes, l'ami de cœur de Marie-Antoinette, l'organisateur de l'expédition, va supplier Louis XVI de lui permettre de continuer avec eux, d'accompagner le petit groupe jusqu'à terme, jusqu'à Montmédy. Simplement, Louis XVI refuse. Louis XVI est tout à fait reconnaissant aux Suédois de son dévouement. Il remercie chaleureusement Fersennes, mais en même temps, il n'a pas envie de poursuivre cet épisode très important dans son destin sous les auspices d'un homme qu'il regarde, qu'on le veuille ou non, comme son rival. Il sait très bien qu'il est plus que l'ami de son épouse. Et donc Louis XVI va décliner, il embrasse Fersennes avec effusion de cœur, nous dit Fersennes lui-même, et il va lui remettre en hommage la grosse bague en or qu'il porte à l'annulaire. Il confie cette bague à Fersennes et puis tout le monde remonte en voiture, sauf Fersennes, et l'équipage s'ébranle vers Varennes et vers son destin. « Adieu, Madame de Corf !» crie Fersennes. On imagine qu'il a la gorge nouée. Et pendant ce temps, il serre dans sa main le présent du roi. Il serre cette fameuse bague. C'est l'érudit Jean Pastreau, auquel il faut rendre hommage, qui nous apprend que 3 ans plus tard, on est après l'exécution du roi et l'exécution de la reine. Fersennes, qui se trouvait embarrassé de ce présent tellement important, va confier la précieuse bague au duc de Brunswick. Le duc de Brunswick, vous savez, c'est lui qui a perdu la bataille de Valmy. Mais en même temps, Fersennes se dit que Brunswick est le mieux placé pour pouvoir remettre un jour la bague à celui qui est le seul survivant avec sa sœur, Madame Royale, de la Terreur et de la Révolution. Il va pouvoir remettre la bague à l'orphelin du temple, à celui que les royalistes considèrent comme Louis XVI. En 1795, Louis XVII meurt, c'est en tout cas la thèse officielle, et le chef prussien reste avec la bague de Fersennes. En France, la révolution reflue, elle laisse place au consulat, puis à l'Empire, et il faut dire qu'en Suède, Fersennes va périr lui-même en 1810, écharpé par la foule qui le soupçonnait d'avoir commis un crime d'État. Quant au duc de Brunswick, me direz-vous, qui possède maintenant la bague que Louis XVI avait confiée à Fersennes, eh bien, le duc de Brunswick, il est mort à ce moment-là depuis 4 ans. Mais il a retenu le vœu de Fersennes, il l'a transmis à ses descendants, et les héritiers du duc de Brunswick n'ont qu'une obsession, c'est de pouvoir un jour remettre cette bague de Louis XVI à quelqu'un qui la mériterait. Et ils vont croire à l'histoire de Charles Guillaume Naundorff. Vous savez, Naundorff, c'est cet homme sorti des limbes et qui affirme être l'enfant du temple. Il dit qu'il est Louis XVII qui s'est échappé du temple. Et les héritiers Brunswick sont convaincus de sa bonne foi, ce qui fait qu'ils vont lui remettre solennellement l'intaille royale. Parce que je dis l'intaille, en fait, il s'agit d'une bague antique, qui est une bague romaine en or, grosse monture, et il y a dessus un grenat qui est gravé d'une bellone à 3 fleurs de lys, donc en intaille. En dépit de ses efforts, Naundorff va mourir en 1845 sans avoir pu faire reconnaître en France son éventuelle ascendance royale. Sa femme et ses enfants, pour autant, ne s'avouent pas vaincus. Et en 1850, ils intentent un procès en reconnaissance. Et qui est le défenseur des héritiers de Naundorff? C'est un républicain, c'est l'avocat Jules Favre, qui va constituer en leur faveur tout un dossier très solide et qui va plaider. Une plaidoirie néanmoins insuffisante aux yeux des juges. On peut dire que Jules Favre échoue, mais néanmoins, et pour le remercier de tous ses bons efforts, eh bien, les héritiers de Naundorff vont lui remettre la fameuse bague. Vous voyez un peu, la bague, elle est passée de Louis XVI à Fersennes, de Fersennes à Brunswick, des Brunswick à Naundorff, et maintenant, elle est dans les mains de Jules Favre. Et c'est alors que les choses deviennent assez extraordinaires, puisque au moment de l'effondrement de Sedan, en 1870, on constitue un gouvernement de défense nationale et le portefeuille de la guerre dans ce gouvernement de Paris échoit à Jules Favre. Et c'est Jules Favre, c'est cet ancien avocat, qui va être chargé de négocier l'armistice avec Bismarck. Et le soir, un soir de février 1871, donc au moment de signer à Versailles ce document tellement décrié, hein, cet armistice, Jules Favre se rend compte qu'il est, il est sorti de Paris assiégé, il a traversé les défenses comme il a pu, mais il a oublié les sceaux de France, donc il ne peut pas signer le traité. Et c'est le chancelier de fer, c'est Bismarck, qui lui propose alors d'enfoncer dans la cire chaude du traité l'intaille de Naundorff. Là, ça devient extraordinaire, parce que c'est avec la bague de Louis XVI ou la bague de Fersen, comme vous voudrez, qu'on se met à sceller l'armistice de 1871, qui est considéré comme la honte absolue pour la France. Vous voyez, c'est à ce moment-là qu'on va notamment restituer l'Alsace et une partie de la Lorraine. Eh bien, un demi-siècle. Et alors, ce qu'il faut dire, c'est que Jules Favre, après cette affaire, a déposé évidemment la bague aux affaires étrangères, au ministère des Affaires étrangères, puisqu'elle était devenue un sceau officiel. Eh bien, le 28 juin 1919, sur le chemin qui conduit Clémenceau au château de Versailles pour aller signer cette fois la paix qui met fin à la Première Guerre mondiale et qui va consacrer la défaite de cette Allemagne qui était née en 1871 à Versailles, Clémenceau ordonne à son chauffeur de faire un détour par le quai d'Orsay, où se trouve donc la bague. Il met la bague à son doigt et c'est avec la célèbre bague de Fersen que Clémenceau va signer la paix de 1919. Vous voyez l'importance qu'a acquise cette bague dans l'histoire de France. Eh bien, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a quelques années, j'ai été amené moi-même à me rendre aux archives du ministère des Affaires étrangères pour contempler la fameuse bague. Et le conservateur qui était là à l'époque était un peu gêné. Quand en effet, nous avons ensemble ouvert le carton, on a bien trouvé tout ce qui accompagnait l'objet. Mais l'objet lui-même n'était plus l'objet original. Il a été remplacé. Où est la bague de Fersen? Elle a disparu, probablement dans les années 50 ou 60. Elle a été tout simplement volée. Et je racontais cette histoire exactement dans les mêmes termes, comme je viens de le faire à ce micro. Je racontais cette histoire au cours d'un dîner, il y a quelques années, lorsqu'un des convives m'a dit « Eh bien écoutez, moi je vais vous dire, je sais où elle est la bague. Je l'ai vue, je connais la personne qui actuellement la porte à sa main et qui serait bien surprise d'apprendre quelle est son origine. » Je vous avoue que ni ce monsieur ni moi pour l'instant n'avons osé détromper l'heureuse propriétaire d'une bague historique.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec vos invités aujourd'hui. Je voulais me lire un petit peu trop vite sur Europe 1, hein, la symphonie des jouets de Mozart, avec donc vos invités Franck aujourd'hui pour parler des objets d'autrefois, Philippe Ancelin et Gérard Boutet.
Alors les jouets font effectivement partie des collections possibles. Et les jouets anciens, on le disait tout à l'heure avec Gérard Boutet, sont parfois très beaux, il faut le dire. Pour revenir un instant sur la bague de Fersen, Philippe Ancelin, sur cette histoire que raconte Jean Pastreau, qui est quand même assez extraordinaire, il y a comme ça des objets qui ont une destinée inouïe, hein, et que l'on retrouve de génération en génération et qui se retrouvent au cœur de l'action, si je puis dire, en permanence.
Exactement, qui se retrouvent au cœur de l'action et qui parfois ressurgissent. Et l'exemple que vous donnez est tout à fait symptomatique du cheminement que peut avoir un objet. Moi, il m'est arrivé dans ma pratique professionnelle de voir ressurgir des objets qui avaient été complètement oubliés et où la personne qui nous l'a porté était très éloignée du destinataire initial et, j'allais dire, d'un point de vue culture, social, par rapport. Et c'est vrai que souvent, c'est par rapport à nos recherches que nous pouvons faire préalablement à la vente et qui nous permettent, j'allais dire, en trouvant un petit coin, on tire toute la nappe et toute l'histoire vient avec. Et ça, c'est formidable.
Alors, nous allons quitter, si vous voulez, les grands objets, les objets historiques, pour entrer dans le quotidien des petits objets, des objets quotidiens. C'est le cœur et c'est la matière de votre très gros et magnifique ouvrage, Gérard Boutet, qui s'appelle donc « La France en héritage, dictionnaire des savoir-faire et des façons de vivre ». C'est publié par Omnibus. En fait, vous ne faites pas simplement un incroyable dictionnaire d'objets, mais vous nous racontez également les métiers qui vont avec et tous les savoir-faire, en fait. Des savoir-faire qui, un peu comme la connaissance des objets, ont tendance évidemment à s'évanouir peu à peu.
Oui, je pense que c'est un tout. C'est la vie de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Et cette vie, dans cette vie, il rentrait les objets, bien sûr, qui permettaient de vivre, qui aidaient à vivre. Et puis, il y avait aussi la façon de s'en servir. Il y avait les coutumes qui venaient, et les croyances, et les proverbes, et la façon de manger. Tout ce qui fait la vie. Et la façon d'aimer.
J'ouvre tout à fait au hasard. Hein, mes deux invités sont témoins que j'ai ouvert le livre tout à fait au hasard. Donc on est à la page 376. Alors je lis des métiers comme corailleur, corbeiller, cordier. Alors cordonnier, ça, celui-là, on le connaît encore, mais j'allais dire à peine. Corroyeur, cornemuseux, cornetier, corveilleur. C'est incroyable, il y avait une quantité de savoir-faire autrefois.
Corveilleur, ça vient en droite ligne du Moyen-Âge. Hein, c'est la corvée. Hein. Cordonnier.
Vous êtes arrêté sur cordonnier.
Ce qui est magnifique dans le cordonnier, c'est l'étymologie. C'est Cordoue, la ville de Cordoue, où il y avait des chèvres. Et le cordonnier, au départ, était l'artisan qui œuvrait avec le cuir de chèvre.
Alors, ce qui est fascinant, c'est l'infinie multiplicité des outils qui peuvent exister. Dès qu'on arrive dans les ustensiles de cuisine, dans les outils de tous ordres, j'en ai cité un certain nombre dans l'introduction de cette émission, dont certains complètement aberrants quasiment, mais enfin bon, c'est, par exemple, rien qu'on parlait de cordonnerie, rien que les alènes, c'est-à-dire les espèces de poinçons qui permettent de trouer le cuir, il y en a de toutes les formes, de toutes les tailles, ça évolue avec le temps.
Absolument, et pourquoi il y en a tant? C'est que les outils n'étaient pas manufacturés à l'époque. Les outils étaient fabriqués par ou pour celui qui s'en servait. Et il n'y avait jamais deux artisans qui se servaient du même outil de la même manière. Donc au bout d'un certain temps où l'outil était fabriqué à sa convenance, à la convenance de celui qui allait l'utiliser, ou alors l'outil se déformait selon la manière dont celui qui l'utilisait s'en servait.
Alors il faut que vous nous donniez quelques exemples d'outils étonnants qui figurent dans votre dictionnaire, dans la France en héritage. Parlons de la Doloire par exemple.
Vous me coupez là. La Doloire. C'est un des outils les plus beaux. C'est le tonnelier. C'est une espèce de hache dont la lame est carrée, très lourde. Et bien souvent, ces doloirs, la Doloire, c'était l'outil emblématique du tonnelier. Étienne Dolet avait la Doloire en emblème. Hein. Vous parliez des exibris tout à l'heure. Il avait la Doloire sur son exibris. La Doloire, c'était donc...
L'exibris, ce sont les vignettes que mettaient les collectionneurs de livres sur leurs ouvrages.
Et la Doloire était un instrument, un outil obligatoire pour le tonnelier. Et Dieu sait si le tonneau, chez nous, a une importance par le vin. Le tonneau qui nous vient des Gaulois. C'est une invention des Gaulois.
Oui, bien sûr.
À Rome, c'était des amphores.
Alors là, c'est l'occasion jamais de préciser ça et de le redire. Nous sommes évidemment les héritiers d'une civilisation gallo-romaine et les Romains ont joué un rôle tout à fait essentiel dans ce qui constitue aujourd'hui notre environnement. Mais un très grand nombre des objets qui sont encore aujourd'hui des objets quotidiens sont des objets d'origine celtique et ce sont les Gaulois qui les ont inventés, qui d'ailleurs souvent les ont donnés aux Romains. Il ne faut pas l'oublier ça, parce qu'on a tendance...
Par exemple. Le sabot, le tonneau. Et la Doloire, pour revenir à cela, bien souvent, comme c'était l'outil emblématique de cette corporation, la Doloire était un outil travaillé par le forgeron ou le taillandier. Et vous avez des décors de Doloire. Mais c'est magnifique, c'est de l'art populaire, c'est magnifique.
Eh oui, on aime ces artisans qui ont leur instrument, souvent transmis par leur propre maître ou par le maître de leur maître, et qui sont souvent de très beaux instruments. Je pense notamment au fusil des bouchers, qui est dont les manches sont très artistement sculptées.
Les outils des forgerons. Des maréchaux ferrants plutôt.
Ouais,
les boutoirs, ces choses-là.
Alors, il y a des instruments qui font un peu peur, ce sont les instruments médicaux, Philippe Ancelin. Et certains les collectionnent, bien entendu.
Ah oui, il y a des amateurs d'objets médicaux, surtout que, bon, à partir de la fin du 18e, on peut voir des nécessaires complets d'objets de dentisterie, de chirurgie. Alors, bien souvent, on n'aimerait pas être à la place du patient de l'époque, mais ça reste néanmoins de très beaux objets dans la mesure où ils peuvent avoir des fabrications de nacre, des décors en argent, un travail de damasquinage sur les lames. Donc vraiment des choses tout à fait intéressantes. Et comme le disait Gérard, souvent sur des outils du 18e que nous pouvons voir, il y a quand même une espèce de velouté de travail du métal, parce qu'il y a cette usure, cette patine qui est au bout du compte inimitable, la patine de la main, comme vous le faites très joliment remarquer. Et c'est vrai que pour nous, ce sont des objets qui, même s'ils n'ont pas forcément une valeur très importante en vente aux enchères publiques, quand on les a, on en prend un peu plein la figure et plein les souvenirs.
Oui, c'est ça. Vous avez des exemples d'outils dont vous n'avez pas trouvé l'utilité, Gérard Boutet dans...
J'hésite pour certains. Certains sont un mystère. Et pourquoi? Parce qu'ils ont été faits par un homme qui s'en servait à un usage précis. Philippe, vous avez parlé des ustensiles de chirurgie. Il se trouve en Franche-Comté, un petit village, Montéchroux. C'est minuscule, Montéchroux. C'est à quelques kilomètres de la frontière. Et à Montéchroux, les paysans du coin, l'hiver, avaient dans leur jardin ce qu'ils appelaient une fournaise, c'est-à-dire une petite forge, comme un barbecue de maintenant. Et dans cette petite forge, ils forgeaient des pinces à mailles. Les pinces à mailles, c'est une pince assez compliquée, minuscule, qui servait aux chirurgiens, aux opticiens, aux médecins, et même plus tard aux astronautes. Et c'était fait d'une manière rudimentaire dans les jardins. Il y a un très bon musée de la pince à mailles à Montéchroux.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Cette vieille édentée dans ses vieilles dentelles, vit dans ses vieux papiers, ses vieux bouts de ficelle. Elle a de vieux chapeaux, de vieux journaux, un vase de nuit, et puis des rideaux d'or ganti. Cette vieille édentée dans ses vieilles chandelles, son vieux service à thé et sa vieille vaisselle, se remet à son cou ses vieux bijoux le samedi soir pour se voir dans son vieux miroir.
Cette vieille édentée au bon temps des ombrelles avait des lords anglais qui se ruinaient pour elle. On voit moustache en trou dans des tableaux leurs fiers d'état, que la mort emporta soudain.
Serge Lama sur Europe 1 avec La Vieille et le Brocanteur. Cette vieille édentée. On vous retrouve, Franck, pour une émission consacrée aux objets d'autrefois. Vous faites aussi écho évidemment à l'actualité avec la Foire de Paris qui démarre aujourd'hui porte 2, Versailles.
Il y a les objets d'élégance également. On parle là de dentelle et d'ombrelle, mais c'était Serge Lama évidemment. Mais il y a ces objets qui étaient des accessoires de mode et qui effectivement ont aujourd'hui perdu leur utilité, Philippe Ancelin.
Oui, tout à fait. Par exemple, vous avez l'exemple dans les années 1830-1850, vous aviez la mode des petits porte-bouquets que les élégantes mettaient des fleurs au bout de pièces en métal, parfois avec des rehauts de nacre, etc., qui ont été très collectionnés il y a quelques décennies, qui maintenant sont un peu tombés en désuétude, et qui étaient vraiment l'accessoire indispensable de l'élégante de la Restauration et de l'époque Louis-Philippe. Après, bien évidemment, nous sommes passés à d'autres choses, comme il en va, j'allais dire, du goût de la parure et des inventions humaines. Il y a de multiples variations. Et c'est vrai qu'il y a eu tout au cours du 19e siècle et même du 20e siècle, le goût de l'Extrême-Orient pour les garnitures de toilettes, pour les accessoires de mode, les éventails.
On avait aussi des pinces à relever les jupes, Gérard Boutet.
Mais je viens de me décider pour en parler. Oui, avant 14, les jupes étaient, les robes étaient à la hauteur des chevilles qu'elles cachaient. Et il ne s'agit pas de montrer ces détails de l'anatomie. Donc, lorsque c'était l'époque où il y avait les fiacres, et il y avait les caniveaux qui avaient du crottin et de la boue quelquefois et des arroseurs publics. Alors lorsqu'il fallait franchir le caniveau sans maculer le bas de la robe, eh bien on relevait, les élégantes relevaient discrètement grâce à une pince métallique argentée qui était mise au bas sur l'ourlet de leur robe et qui était reliée à la ceinture par un petit cordonnet. Eh bien les élégantes relevaient discrètement le bas de cette jupe pouvait franchir le caniveau et personne ne voyait rien, hélas.
Il y avait énormément, dans les accessoires de mode, il y avait énormément d'aiguilles et de pinces hein, à l'époque. Notamment, il y avait également les pinces à jabot, les pinces à gants également.
Tout à fait, les pinces à gants. Les,
qui servaient à tenir le gant haut sur le bras.
Voilà, et à le remonter. Non, il y avait toutes sortes d'outils. Et c'est vrai que l'harnachement féminin à la fin du 19e ou début du 20e était quand même particulièrement compliqué, dirons-nous. Et dévêtir une femme au début du siècle devait être pour un homme un long travail et un grand plaisir.
Il y a également, alors quand on se promène dans la maison cette fois, on n'est plus là dans les outils, dans les ustensiles, on est plutôt dans les objets, disons, de décoration. Il y a des choses qui ont changé d'usage. Ça, c'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'on a tendance aujourd'hui à utiliser de manière décorative des objets qui ont pu être utilitaires autrefois.
Les objets détournés, les lustres qui sont des roues de charrette. Franchement, Franck, cela ne m'émeut guère. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec les objets détournés. Mais oui, c'est vrai que l'objet, certains objets étant tellement beaux, nous paraissant beaux, parce que vernis par leur usage, par la main, on a envie de les garder et on ne ferait rien d'une roue de charrette, donc on la transforme et on en tire parti. Bon. Pourquoi pas ?
Moi, j'ai détourné, à titre personnel, une deux mains en faïence des années 50 qui, en fait, c'était des moules pour les gants de ménage, qui servaient à couler les gants de ménage en caoutchouc. Et donc, j'ai deux mains qui font un peu mains de momie ou d'antiquité grecque.
Ou prises d'empreintes. Hein.
Ou prises d'empreintes qui sont les paumes ouvertes.
Et c'est un livre, non ?
Non, c'est posé décoratif. Sur un meuble, c'est décoratif. Comme...
Regardez l'utilisation des vieilles valises aujourd'hui comme boîte à rangement. Il y a beaucoup de gens qui font ça. C'est un côté bobo, hein, évidemment. Ça fait partie de l'époque, en quelque sorte.
Tout à fait.
Certaines ont une grande valeur. Hein,
exactement, oui, bien évidemment.
Là encore, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'objet. Qu'est-ce qui va faire qu'un objet, par exemple, on parle d'une malle ou d'une valise, qu'est-ce qui va faire que de 35 euros, on passe à 3500, Philippe Ancelin ?
Il y a l'état, bien évidemment. Il y a ensuite la signature, hein, si c'est d'un grand faiseur ou d'un grand fabricant du XXe siècle. Et enfin, il y a la provenance.
Et voilà.
Sans aller jusqu'à la bague de Fersen. Mais si ça a appartenu
à Sarah Bernhardt, c'est mieux.
À Sarah Bernhardt ou à une actrice particulièrement fascinante pour la population actuelle, bien évidemment, ça va augmenter le prix du désir.
Et ça, ça nous amène à la notion de sacralité de l'objet. C'est une notion qui, évidemment, là encore, a tendance à se perdre. On est en train de couronner le roi des Pays-Bas. Les regalia, comme on les appelait autrefois, étaient les objets du sacre. Hein. Il y avait le sceptre, la main de justice, la couronne fermée, ouverte, en fait, etc. C'était des objets qui étaient censés posséder, retenir en eux une sorte de pouvoir magique. Gérard Boutet.
Oui, là, je pense que le pouvoir des objets est celui qu'on leur donne.
Mais oui.
Et tout simplement, et d'une personne à l'autre, ce pouvoir va changer et ces valeurs vont changer. Philippe retrouve dans ces objets une valeur pécuniaire, pas uniquement, hein, vous l'avez dit. Pour moi, ça sera plus une valeur sentimentale ou de témoignage. Et c'est vrai qu'il y a certains objets qui me paraissent obligatoires, qui me paraissent vitaux pour moi, mais uniquement pour moi. Tel objet, tel jouet d'autrefois en bois qui est mâchouillé par un chien ou tout, n'aura aucune importance pour vous, Franck, alors que pour moi, ça vaut la pupille de mes yeux.
Oui, c'est ça. Donc là, après, c'est la foi, en quelque sorte, qui fait la valeur.
Oui, d'une part. Et puis d'autre part, vous parliez de sacralisation. La sacralisation peut être par la provenance, mais peut être aussi par l'aboutissement. Quand un objet passe du cabinet du collectionneur à une institution publique et à un musée, il devient autre chose. Il devient certes peut-être moins accessible. Nous n'avons plus ce contact que Gérard peut avoir quand il le voit ou que moi je peux avoir quand on m'apporte les pièces que je vais mettre en vente. Et c'est vrai que je pense que Gérard et moi avons ça en commun, que nous avons le sentiment de vivre des instants privilégiés dans la mesure où à un moment donné nous avons été en contact avec telle ou telle pièce.
Vous ressuscitez en quelque sorte aussi les objets, vous leur rendez leur...
On communie avec des gens qui les ont utilisés ou possédés. Ce qui m'étonne, c'est que l'éventail de recherche et de collection est infini.
Ah oui,
on voit des gens qui collectionnent des choses improbables avec une passion et c'est vraiment stupéfiant.
Les jetons de jeu, les des choses, mais c'est vrai que c'est absolument invraisemblable. Puisque nous parlions de la sacralité des objets, je voulais signaler l'ouvrage de Marie-Hélène Bellac, publié chez First, qui s'appelle « Ces objets qui ont fait l'histoire ». Et alors on trouve là-dedans le chapeau de Napoléon, le sac de Margaret Thatcher, le keffieh de Yasser Arafat, le couteau de Ravaillac, les coltes de Patton, la chemise rouge de Garibaldi, le cigare de Churchill, le knout de Pierre le Grand, le poignard de Brutus. Alors là, j'aimerais quand même en être certain. Le collier de Marie-Antoinette, etc. Tous les attributs, en quelque sorte, qui accompagnent les personnages. Et c'est vrai que certains en ont fait un instrument. Il y a, par exemple, au chapitre 24 de ce livre, la question du parapluie de Louis-Philippe. On sait que lorsque le roi des Français, Louis-Philippe Ier, décide d'aller se promener dans les rues de Paris en portant lui-même un parapluie, c'est une véritable révolution politique. Ça n'est pas un hasard, hein. C'est un choix délibéré. C'est une volonté de communication, nous dirions aujourd'hui.
C'est le roi bourgeois.
C'est ça, c'est le roi bourgeois, c'est monsieur tout le monde.
C'est monsieur Riflard.
Exactement. Ces objets peuvent donc, dans ces cas-là, acquérir une espèce de dimension politique et de communication. Est-ce que vous pensez qu'on aura des objets demain que les brocanteurs du 22 ou 23e siècle vendront les objets du 21e, Philippe Ancelin?
Oh oui, tout à fait, puisque là, récemment, à l'hôtel des ventes, il y a eu une vacation sur le thème des jouets des années 80, donc des années 70-80. Alors bon, maintenant, Goldorak ou Capitaine Flamme rentrant dans le jeu de la collection, ce sont les antiquités du 22e ou 23e siècle, si tant est que les matériaux subsistent.
Et en même temps, attention à cette myopie qui fait que les gens s'attachent de plus en plus à des objets qu'ils ont connus de leur vivant, parce que ne connaissant pas suffisamment les références anciennes, ils n'ont plus de lien avec les objets plus vieux. La France en héritage de Gérard Boutet, c'est le dictionnaire des savoir-faire et des façons de vivre de 1850 à 1970 environ. C'est une véritable bible publiée chez Omnibus. Et puis dans un domaine connexe, finalement pas si éloigné, de Philippe Ancelin, Un rêve d'artiste au paradis, la villa d'Omergue, Cannes. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.